des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez régulièrement, peut-être à chaque semaine, à cette émission des livres plein les oreilles qui ne se consacre qu'aux livres audio ou qu'il soit produit. J'insiste bien, pas seulement chez Vues et Voix, puisque cette émission est produite par Canal M, la radio de Vues et Voix, mais pas seulement chez nous, donc en ce qui concerne les livres audio, mais également ceux qui sont faits ici au Québec par d'autres, qu'on appelle des concurrents, mais que nous on appelle des partenaires, ou encore en France, je pense à Audiolib, Gallimard et compagnie. Dès l'instant que la littérature se fait par les oreilles, je suis là. La trilogie sur le bonheur, oui, c'est ce que nous a proposé Francine Ruel depuis quelques années et maintenant elle en vient à les enregistrer les uns derrière les autres. Cette héroïne qui reprend vie dans, par exemple, ce livre qu'elle nous présente aujourd'hui, « Maudit que le bonheur coûte cher ». Olivia Lamoureux is back, mes amis. Le bonheur, elle l'a connu, elle sait ce que c'est, mais comme tous les gens qui côtoient le bonheur, eh bien... Il y a aussi les emmerdes, forcément l'autre côté de la médaille, que Francine Ruel sait si bien dépeindre au fil de ses livres. Je vais la retrouver pour un entretien téléphonique dans quelques minutes. À cette émission aussi, je me suis plongée dans la lecture d'un papier qui évoque la mort, mystérieuse, de la famille Brontë, des sœurs Brontë, toutes parties avant l'âge de 40 ans. Alors, il fallait bien que j'aille voir ce que les catalogues de livres audio ont à nous offrir de ces sœurs Brontë, dont les œuvres, d'ailleurs, sont toutes du domaine public. Et pour finir, deux livres audio qui ont attiré mon attention, du Laurent Deutsch à son meilleur, Laurent Deutsch qui nous avait promené dans Paris et qui, là, avec la même passion, nous entraîne dans la folle aventure de la langue française en audio, puisque c'est lu par lui-même. S'il nous reste du temps, peut-être une petite nouveauté à vous glisser dans les oreilles, mais pour l'instant... Place au bonheur.
Souffrir, c'est contradictoire. Bonheur, tu nous fais souffrir la peur que tu pars. Tu appartiens à ces choses volatiles comme les bouquets de roses. Tu te fanes vite, c'est à croire qu'on ne te mérite pas. L'homme n'est pas fait pour toi. Bonheur, tu aimes repartir à peine à la mare. Je comprends qu'on préfère te fuir comme chantait Gainsbourg. Comme l'odeur de la mer nourrissant, comme l'odeur de la mer moussaillant. On te respire comme ces choses disparues, parfum des paradis perdu. Bonheur, tu nous fais souffrir. D'accord, c'est bizarre. Bonheur, tu nous fais souffrir. Ces choses volatiles, à ces choses qui ne tiennent qu'à un fil. c'est à croire qu'on ne te mérite pas. Que l'homme n'est pas fait pour toi. Je tiendrai bien la barre, bonheur, bonheur, mon souffle dans tes voiles. Ne pars pas, bonheur, bonheur, non, ne te pars pas, mon beau voilier. Je tiendrai bien la barre, bonheur, bonheur, mon souffle dans tes voiles. Ne pars pas, bonheur, bonheur, non, ne te pars pas, mon beau voilier. Je tiendrai bien la barre, bonheur, bonheur, mon souffle dans tes voiles.
Nous ne sommes plus de la chair fraîche, je te signale, ma belle Olivia. Ni le dernier modèle à la mode. Tu as du temps, toi, à consacrer aux séances régulières d'épilation jambes, aisselle, bikini. Tu oublies la lèvre supérieure. Oui, bon. Nous nous lançâmes la balle à tour de rôle pour compléter le tableau des traitements d'entretien de la femme qui désirait être à son avantage et plaire pour dénicher le gros lot. Je démarrai le jeu. Le blanchiment des taches de vieillesse sur le visage et les mains, le ravalement de la façade, visage, sein, abdomen, l'entretien de la cellulite, le régime alimentaire, l'entraînement physique et, si les dommages persistent, la liposuction. L'ongle parfaitement manucuré, la teinture des cheveux impeccable, le talon lisse, le pied doux et l'orteil poli. Ah! J'oubliais, dit Lulu, le blanchiment des dents et de préférence au moment où le partenaire ne s'en rendra pas compte. Et elle se mit à imiter la fille qui essaie de parler avec l'appareil de plastique dans la bouche. Après avoir bien ri de cette caricature, on découvrit encore d'autres subterfuges indispensables pour la femme parfaite. Le botox pour la ride apparente, le collagène pour gonfler la lèvre, le sablage du corps, les séances de bronzage ou l'auto-bronzant, la coupe de cheveux mensuelle, la garde-robe à la mode et... J'avais l'impression qu'on avait terminé.
Non, la liste est encore...
Et non, on n'a pas terminé.
Mais j'ai coupé là exprès parce que oui, ça dure encore deux pages et je l'ai bien ri.
Okay, okay.
Bonjour Francine Ruel.
Bonjour, c'est le fun d'avoir un autre âge pour plus faire ça.
Oh que oui, oh que oui. Les joies d'être femme.
Hein? Femme, voilà, voilà.
Alors...
Il dit ça de la mode et ce qu'on s'impose, mon Dieu, c'est terrible ce que les femmes s'imposent.
S'impose, hein?
Alors que quand on a passé ça un moment, on fait « Mon Dieu, qu'on était folle !»
Mais exactement.
Voilà.
Je voudrais revenir, Francine Ruel, si vous me le permettez, quelques secondes sur la chanson qu'on a entendue juste avant, qui s'appelle « Bonheur ».
Oui, très beau d'ailleurs.
Oui, hein, c'est beau, c'est du Claude Nougaro. Et c'est un Claude Nougaro fragilisé parce que c'était son tout dernier album. C'était quelques mois avant qu'il décède. Et ça se sent dans sa voix. Je suis allée voir une vidéo de lui à cette époque-là. Il avait terriblement maigri. Il n'était plus qu'un squelette sur deux pattes, bouffé, rongé par ce cancer, dont il est question d'ailleurs dans votre livre. Alors, je voudrais préciser, voilà, Bonheur, c'est dans le dernier disque de Claude Nougaro.
Oui, il y a une voix fatiguée, hein?
Oui, hein? Ça,
comme arrivé quelque part.
Exactement.
J'écoutais, je disais, mon Dieu, est-ce que c'est Claude Nougaro?
Mais oui.
Je me disais, non, ça ne doit pas être lui. Mais une voix fatiguée,
ouais.
Comme dans la vraie vie, quoi.
Mais comme dans la vraie vie. Hein? Et puis, je trouve que le texte va tellement bien avec ce qui vous arrive, ce qui nous arrive, avec ce qui arrive à Olivia Lamoureux, c'est-à-dire... Oui, oui, bonheur, mais bonheur, tu nous fais souffrir parce qu'on a tellement peur que tu te barres, quoi.
Oui, oui, oui.
Et c'est un...
Je crois que c'est Léo Ferré qui disait le bonheur, c'est du malheur qui se repose.
Oui, c'est vrai.
Et mon Dieu.
Oui, oui, oui,
c'est comme
vrai.
Je préfère celle de, que je lis dans mon agenda d'ailleurs, je vais vous la sortir si je peux la retrouver, qui dit « Le bonheur m'a dit qu'il revienne ». Ou « Le bonheur m'a dit qu'il, en partant qu'il reviendrait », Jacques Prévert.
Ah,
oui,
magnifique.
Ça bouge et c'est magnifique. Ça, le bonheur aussi. Puis ce deuxième roman qui n'était pas inscrit à l'agenda au départ, je devais écrire qu'un seul roman, c'était ça le bonheur, et
voilà.
Ça s'arrêtait là. Et j'ai un éditeur, André Bastien, mon éditeur André Bastien, que je salue, que j'adore et qui m'a tenu la main pour m'apprendre à devenir un auteur qui se tient sur ses pieds.
Oui.
Et
il l'a drôlement bien fait parce que ça se tient, ça y a aucun doute
ça
là-dessus.
Ça se tient, bon, parfait. Et donc, je m'en allais écrire autre chose, puis qu'il m'a dit non, tu peux pas. C'est à l'époque où on n'avait pas les Messenger et compagnie. Mm-hmm. Et il m'avait dit, est-ce que tu reçois toutes les courriers que les gens t'envoient ou les lettres ou tout. Mm-hmm. J'ai dit oui, j'en ai à la tonne et tout le monde veut une suite, tout le monde veut savoir ce qui va arriver à Olivia et ses amis, etc. Et j'avais fait, bon, ok, d'abord, laisse-moi juste regarder s'il y a assez de matériel parce que je veux quand même pas étirer la sauce et puis laisse-moi regarder. Et c'est le plus gros de la série.
Mais oui, 400 pages.
Quatre,
hein?
Finalement, mais c'est le plus gros parce que j'ai pu explorer beaucoup plus de choses, approfondir mes personnages, non pas laisser la maison de côté, mais laisser aller plus au cœur des personnages et leur âme aussi, je trouve ça important. Et je pensais pas du tout qu'on en arriverait là, mais on l'a fait, quoi.
Oui,
et
puis je suis contente que vous me parliez...
Des questions de cancer,
oui,
des questions
voilà, c'est ça.
De peine, de chagrin, d'envie, mais aussi de grand bonheur. Et,
Oui, et justement, moi, j'avais fait un petit peu, j'avais dressé en prévision de cette entrevue la liste de vos personnages, y compris de la Maison Jaune et des Cantons de l'Est, parce que c'est vraiment, c'est le cœur aussi du personnage d'Olivia.
Ouais,
puis,
ouais.
Et encore là, c'est vrai, parce que c'est là où même dans les moments tristes, épouvantables, c'est là qu'elle réunit son monde, c'est là qu'on y parvient. Bon, à part un Noël qui est un peu plus difficile,
c'est
on va
oui,
un
bon.
Petit peu. Voilà, bon, d'accord, on va y revenir. Vous savez, je pensais à une autre chanson parce que moi j'associe énormément la vie à la chanson. Je me souviens plus quel président de la République française avait dit au moment de la mort de Brassens. Je pense, il avait dit il ne faut jamais mésestimer, malheureusement, comme l'avait fait Gainsbourg, l'art de la chanson française, parce que chaque chanson, c'est aussi le reflet d'une année, d'une époque, d'un genre, d'une mode et d'un...
Oui,
hein,
ça
c'est
nous
vrai.
Accompagne aussi.
Ça nous accompagne.
Je fais ça dans mes romans, moi. Je pense qu'il n'y a pas un seul roman où il n'y a pas une référence à une chanson.
C'est
et même
vrai.
Dans le dernier que je suis en train de terminer, je suis en train de faire la deuxième version de ce roman qui va paraître à l'automne. Ben, il y en a encore.
Il y a encore des
références à des romans, mais il y a des références à des chansons aussi.
Alors là, moi, celle qui m'est venue spontanément à l'esprit, c'est « La vie, l'amour, la mort » de Félix Leclerc. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est une chanson, mais trois mots qui résument bien la vie, la vôtre, la nôtre, la mienne, c'est-à-dire la vie, l'amour, la mort. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ce tome 2 de cette trilogie du bonheur. Alors, les personnages, beaucoup de...
On ne peut plus dire trilogie, hein?
Non?
Parce qu'il y en a quatre.
Il y en a quatre, maintenant. Donc, c'est une tétralogie, alors.
C'est ça, la série sur le bonheur, parce qu'on se disait que le mot quatre, c'était laid. On n'aimait pas ça, s'en servir.
Ouais.
Une quadricoire, alors...
Non, c'était tétralogie. Tétralogie, comme la tétralogie de Wagner, mais c'est pas plus beau, remarquez.
On a dit Siri, la série.
Eh bien, c'est très bien.
Ouais.
Eh bien, c'est parfait. Alors donc, c'est les personnages, oui, on retrouve avec un grand plaisir ces amis de gars gays qui, dans leur générosité, dans leurs défauts, dans leurs accents, dans leur désir, comme ce couple qui désire à tout prix adopter un enfant et tout ce qu'il faut faire pour ça. Et puis, il y a la grande faucheuse qui va prendre l'un d'eux.
Ouais.
On ne dira pas lequel.
Non.
Hein, on va laisser ça, mais c'est un passage tout à fait troublant. Il y a cet adorable Minou dont la disparition fait mesurer à Olivia qu'avec un animal, on n'est jamais complètement seul.
Ouais.
Ça commence comme ça. Moi, je me suis dit, ça y est, je n'ai pas fini de broyer.
Oui, je sais. Il y a un journaliste qui avait dit, mon Dieu, c'est incroyable. Il doit avoir un certain talent chez cette femme, en parlant de moi, parce qu'elle nous a tenus pendant, je ne sais pas comment, de chapitre sur la mort d'un chat.
Oui.
Mais il y avait plus que ça dans la mort d'un chat que je voulais mettre, quoi.
Bien sûr. Évidemment.
Et puis les gens se reconnaissent énormément, chiens, chats, tous les animaux de qu'on a dans nos vies qui sont si précieux, autant que nos enfants. Quoi.
Et surtout en période de confinement comme ça, moi je vis seule, j'ai ma petite chienne, ben, c'est sûr que c'est un accompagnement incroyable. D'ailleurs en ce moment, elle développe un petit peu trop un symptôme, parce que comme je suis souvent là, c'est vrai, j'ai plus de mal à partir, et le contraire est vrai aussi. Il y a cette amie Lulu, qui va développer malheureusement un cancer du sein assez jeune. C'est d'ailleurs dans le chapitre, à un moment donné, qui lui est consacré, que le titre émerge, maudit que le bonheur coûte cher. Et j'ai vu dans les remerciements que vous avez pris soin de vous entourer de médecins spécialistes qui vous ont dit comment se passait le processus.
Mais moi, quand je touche à un sujet que je connais pas de près, mais la vie m'a rattrapée parce que j'ai eu un cancer, non pas du sein, mais quelques années plus tard. Mais j'ai été porte-parole pendant plusieurs années de la campagne de prévention du cancer du sein pour les mammographies. Et j'ai travaillé avec des équipes formidables à Québec et un peu partout. J'ai sillonné la province pendant plusieurs années. Et cette équipe-là, j'avais envie de dire, est-ce que j'écris des niaiseries? Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que j'atteins vraiment ce qu'on peut dire à tout le monde de ce que c'est ce cancer-là, puis les traitements qu'on peut avoir et tout, est-ce que je suis à côté de la traque. Là, mon prochain roman, je parle de chèvres, d'élevage de chèvres, alors j'ai un spécialiste, et mes livres de chevet sont « La poule à chair, la poule pondeuse et la chèvre laitière ». J'ai passé l'hiver là-dessus et j'ai un spécialiste qui m'aide pour dire non, c'est correct, ça passe, c'est exactement ça, etc. Mais j'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de faire mes recherches moi-même. Et ça en a fait partie parce que cette équipe était tellement formidable. Et ils font un bien tellement énorme et j'ai rencontré tellement de femmes que j'avais envie d'aller parler de ce sujet-là.
Oui, je comprends.
Des femmes qui ont même pas le cancer, mais qui ont peur de l'avoir ou alors qui sont sujets à cause de leur famille, des antécédents familiaux du côté de la mère. Donc, il y avait de ça que j'avais envie de parler parce que ça fait partie de nos vies, de nos âges, de...
Malheureusement, oui.
Des cadeaux que la vie peut nous apporter au moment où on s'attend le moins, tout le temps.
Oui, je peux vous dire que c'est parfaitement réel, tout ce que vous avez écrit, Francine, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a beaucoup d'humour. Parce que là, on a parlé du chat qui est mort, on a parlé d'un jeune gay qui décède, on a parlé de cette jeune femme. On dit, oh là là, c'est bonjour le roman Kleenex, mais pas du tout. Vous avez un humour que j'adore. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi la première scène qui est évidemment, nous, comme vous dites, à l'âge que nous avons, vénérable, ça nous fait bien rire. Mais il y a des personnages.
Il y a celle de la ménopause qui est pas mal aussi.
Ah, alors voilà. Alors c'est celle-ci dont je voulais vous parler.
Olivia, est-ce que votre description, c'est incroyable. Est-ce que je peux m'en servir auprès de mes confrères? Je pense que vous venez de résumer, c'est exactement quoi. Mais quand elle dit le matin, je me lève, je ne sais pas si.
Alors attendez, je l'ai. Je l'ai. Donc... Attendez, page 286, je tourne les pages de mon iPad. 81, j'y arrive. Ah oui, parce que ça, je l'avais noté, ça m'a fait tellement rire. Alors,
moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est l'horreur. Alors.
J'ai le thermostat déréglé même à 20 sous zéro, je passe du froid au chaud en quelques secondes. Ma vie est un calvaire, ma vie est un sauna. Je ne comprends plus, je suis agressive et pleure pour un rien, je ris aussi pour un rien, je suis tout le temps fatiguée, je n'ai le goût de rien. Le matin, je me lève tellement dépressive que je mettrai fin à mes jours. En fin de matinée, je suis prête à trucider un passant. En début d'après-midi, je suis abattue et convaincue que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et en début de soirée, vous ne vous arrangez pas pour marcher sur les pieds parce que je ne réponds pas de moi. Et le soir, avant de me coucher, je tombe en pleine neurasthénie et je succombe à un doute terrible. Je me demande sérieusement si je dois me suicider en premier ou égorger la terre entière d'abord.
Voilà. Je suis à certaines femmes qui se sont reconnues.
Oui, et là, mais oui, c'est ça. Et puis là, vraiment, et le gynéco qui dit, écoutez, est-ce que je peux vous citer dans un colloque? Voilà. Moi, ça m'a fait hurler de rire. Donc, je veux bien vraiment le préciser. Il y a des moments douloureux, mais il y a aussi beaucoup d'humour.
Alors, moi, je tiens ça de ma mère. Ma mère était... C'est le cadeau, un des cadeaux que ma mère m'a laissé.
Ah oui. Hein.
De parler de notre vie à un moment donné, quand c'est trop dramatique, ben, il faut tourner ça autrement parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Ouais. Alors, je fais ça. Mon fils a eu des gros problèmes, il y en a encore, etc. Ouais. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'humour dedans parce qu'on va exploser.
Absolument.
Et ma mère était comme ça. Notre père est parti en laissant notre mère de 32 ans. Ça, seule avec 5 enfants sur les bras.
Oui.
OK? Et au lieu que ma mère traite mon père de... etc., de tous les gros noms, on a été élevés avec cette phrase formidable qui nous a empêchés de détester les hommes et de les désirer, de les aimer encore. Et c'était, ma mère disait de mon père, cet adorable inconscient. Ça nous faisait beaucoup rire. On ne rapportait pas d'argent à la maison, mais au moins, on avait évité le gros, gros drame
Absolument.
Qui était ce salaud, ce dégueulasse, etc.
Et alors, elle a un sens de la répartie qui vient de vous aussi, j'en suis sûre, cette Olivia Lamoureux.
Oui.
Quand à un moment donné, elle dit « Ferme ta bouche, chérie, tu perds ta chaleur. » J'adore
oui, quand
ça!
Quand en admiration devant je ne sais pas qui. Ben, je dois avouer que mes amis gays m'ont influencé parce qu'ils ont ce genre d'humour-là. Surtout mon ami qui est décédé malheureusement maintenant, à qui j'ai donné la tâche d'être ce personnage italien, mon ami n'est pas italien du tout, que les gens adorent, c'est le personnage que les gens préfèrent dans mes amis, qui a ce type de... qui avait, lui, ce type de répartie, mais... extraordinaire. Alors,
Francine Ruelle, on disait, il y a des moments un petit peu plus douloureux, comme ce Noël où vous recevez un petit mot qu'aucune femme au monde ne voudrait recevoir. Je vous propose qu'on écoute l'extrait.
En déplaçant la boîte ayant servi au transport des chatons, j'ai découvert une enveloppe attachée au ruban rouge. Mon prénom y figurait. Une fois le mot en main, j'ai reconnu l'écriture de Harris. Il me disait que ces deux petites bêtes me tiendraient compagnie et le remplaceraient durant sa longue absence. J'ai d'abord cru à une erreur de français. Il avait sûrement voulu parler de ses multiples absences et non d'une seule longue et au singulier. Lorsque nos regards se sont croisés, j'avais toujours la carte à la main et il a baissé les yeux. Harris semblait sincèrement peiné et mal à l'aise que j'aie déchiffré si facilement son mot. Mes yeux l'ont supplié. « Tu t'en vas ?» De ses hochements de tête, il a tenté de me répondre « oui, mais... » ou alors « peut-être ». C'était difficile de deviner. Mon chum avait de multiples talents, mais pas celui de mime. De sa main, il m'indiqua la présence des invités et son impossibilité à me parler. Il s'est approché de moi et m'a dit à l'oreille qu'il m'expliquerait plus tard. Et alors que je tentais de l'attraper par le bras pour en savoir davantage, il s'est esquivé habilement. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai dû refouler mes larmes et mon incompréhension. Et j'ai dû attendre que tout le monde soit installé pour la nuit ou reparti pour connaître le fin mot du message de ce cadeau joliment poilu. Mais forcément empoisonné.
C'est magnifique, ça. C'est vraiment typiquement l'écriture Francine Ruelle, comme on la déguste. Alors, on en parlait dans l'humour, mais aussi dans l'émotion. Il y a ces phrases références aussi dont vous égrenez votre texte, Francine Ruelle. Entre autres, ce proverbe chinois qui m'a beaucoup parlé, « Le fond du cœur est plus loin que le bout du monde ».
Ouais.
C'est très beau. À quand l'enregistrement de Bonheur es-tu là ? Est-ce que l'aventure audio va se poursuivre comme
l'aventure ? J'ai comme l'impression qu'on va faire la série au complet. Ça fait étrange parce que ça ne date pas d'hier, ces romans. Mais on sait que depuis la pandémie, il y a eu. Les gens n'ont pas arrêté de lire et même beaucoup de monde ont lu et on est tellement ravis, les auteurs. Mais en plus, il y a eu un engouement fou pour les livres audio. Alors, les gens continuent à faire des tâches, puis ils entendent le livre. Alors ça, ils trouvent ça formidable. Mm. Fait qu'il y a cette demande qui est là, fait qu'on va le faire, quoi.
On va se quitter.
C'est agréable à faire.
Oh, ben oui,
travail,
mais oui.
C'est agréable à faire.
Bon, ben écoutez, on aura la joie à ce moment-là de vous recroiser dans nos studios. Je voudrais qu'on se laisse sur une phrase que j'aime beaucoup, qui est celle-ci, qui est tirée de ce livre audio maintenant, « Maudit que le bonheur coûte cher ». C'était une période où nous nous promenions tous entre joies et peines, entre vie et mort, et tous nos bras, si enveloppants soient-ils, n'arrivaient pas à nous consoler tout à fait. Merci beaucoup, parce que dans des périodes de confinement, ça nous fait du bien de lire des phrases comme celle-ci, Francine Ruelle.
Ben, merci énormément, et je vous en promets donc pour l'automne.
Et on va écouter, nous, « La vie, l'amour, la mort » de Félix Leclerc. Salut.
« c'est beau la vie, comme un nœud dans le bois. C'est bon la vie, bu au creux de ta main, fragile aussi, même celle du roi. C'est dur la vie, vous me comprenez bien. C'est beau l'amour, tu l'as écrit sur moi. C'est bon l'amour quand tes mains le déploient. C'est lourd l'amour, accroché à nos reins. C'est court l'amour, et ça ne comprend rien. C'est fou la mort, plus méchant que le vent. C'est sourd la mort, comme un mort sur un banc. C'est noir la mort, et ça passe en riant. C'est grand l'amour, c'est plein de vie dedans.
C'est inévitable, larmes aux yeux, ne serait-ce que ces quelques notes-là, celles qui précèdent et celles qui finissent avec ces mots qui collent encore une fois tellement bien. Je le dis encore, je persiste et signe avec le livre dont il vient d'être question, avec son auteur et sa lectrice, « Maudit que le bonheur coûte cher » de Francine Ruel. J'ai bien dit auteur parce que Francine n'aime pas le terme d'autrice. Elle me l'avait dit la dernière fois que je lui avais parlé et j'ai retenu la leçon. Vous nous écoutez en balado, à CKVL ou à Canal M. C'est Clotilde Saye qui vous accompagne à l'émission Des livres pleins les oreilles. Restez avec nous, on va parler des Sœurs Brontë en seconde partie. Des livres pleins les oreilles, la suite. Généralement, quand on aime bouquiner, que ce soit par les yeux ou par les oreilles, on n'aime pas que les histoires, on aime l'histoire en général. Et honnêtement, faut que je le dise, je n'ai pas lu, du moins pas intégralement, les œuvres des Sœurs Brontë. Mais j'ai toujours été intriguée par ces femmes dont la mort en si jeune âge m'a toujours semblé en tout point fascinante parce que encore remplie au jour d'aujourd'hui de secrets. Et voilà qu'un article se demande si les Sœurs Brontë ne seraient pas les innocentes victimes du cimetière avoisinant la demeure familiale. Et là, évidemment, ça m'interpelle. Alors, pour en apprendre un petit peu plus sur elles et sur les livres audio qu'on peut trouver de Charlotte et d'Émilie notamment, ou encore de Jane, eh bien, suivez les guides. Et puis, suivez le guide, je voudrais aussi évoquer ce curieux petit bonhomme. Ce n'est pas péjoratif quand je dis petit bonhomme, parce qu'il est effectivement petit par la taille et tellement immense par son insatiable curiosité, ce comédien Laurent Deutsch, auteur aussi, qui nous a fait parcourir les rues et les sous-sols de Paris dans tous les sens pour mieux découvrir la capitale française et ses secrets. Cette fois-ci, Laurent Deutsch nous amène comme un chien fou sur les routes de France pour nous ouvrir les portes du mystère de la langue française. Et c'est lui qui raconte en plus, avec la même folie que lorsqu'il écrit. Lui qui, ne l'oublions pas, est aussi comédien. Mais d'abord les sœurs Brontë. Émilie n'a écrit qu'un seul livre, mais quel livre et quel succès, Les Hauts de Hurlevent. En voici un extrait qui débute par un autre extrait, celui de la musique du film de Philippe Sard. C'est la musique de Philippe Sard, je vais y arriver, sur les images d'André Téchiné du film Les Sœurs Brontë, un film qui était sorti en 1979 avec Isabelle Adjani, Marie-France Pizier et Isabelle Huppert dans les rôles de ces écrivaines au destin tragique qui a peut-être trouvé son origine.
L'appartement et l'ameublement n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils eussent appartenu à un brave fermier du Nord, à l'air têtu, aux membres vigoureux mis en valeur par une culotte et des guêtres. Vous rencontrerez ce personnage, assis dans son fauteuil, un pot d'ale mousseuse devant lui sur une table ronde, au cours d'une tournée quelconque de 5 ou 6 milles dans cette région montagneuse, pourvu que vous la fassiez à l'heure convenable après le dîner. Mais Mr. Heathcliff présente un singulier contraste avec sa demeure et son genre de vie. Il a le physique d'un bohémien au teint basané, le vêtement et les manières d'un gentleman. Tout autant du moins que la plupart des propriétaires campagnards. Un peu négligé dans sa mise, peut-être, mais cette négligence ne lui messied pas, parce qu'il se tient droit et que sa tournure est élégante. L'aspect est plutôt morose. D'aucuns pourraient le suspecter d'un certain orgueil de mauvais ton. Une voix intérieure me dit qu'il n'y a chez lui rien de semblable. Je sais par instinct que sa réserve provient d'une aversion pour les étalages de sentiments, pour les manifestations d'amabilité réciproque. Il aimera comme il haïra, sans en rien laisser paraître. Il regardera comme une sorte d'impertinence l'amour ou la haine qu'il recevra en retour. Non, je vais trop vite. Je lui prête trop libéralement mes propres attributs. Mr. Heathcliff peut avoir, pour retenir sa main quand il rencontre quelqu'un qui ne demande qu'à lui tendre la sienne, des raisons entièrement différentes de celles qui me déterminent. Espérons que ma constitution m'est presque spéciale.
Léo de Hurlevent, extrait de cette œuvre qui existe en audio commercial, mais aussi en audio gratuitement, hein, parce que c'est évidemment du domaine public. Alors si vous faites simplement Léo de Hurlevent, Émilie Brontë, vous allez trouver ça très facilement, au moins 5 ou 6 versions différentes. Vous pourrez faire votre choix. Celle-ci, c'est la version commerciale qui est lue par Mélodie Richard, qui était sortie il y a déjà quelques années aux éditions Télème, que vous pouvez retrouver sur la plupart des plateformes de livres audio, dont Audible, bien sûr. Alors, ce roman en a choqué plus d'un à l'époque, notamment par, disait-on, une espèce de manque de respect pour les conventions morales. Et puis, on lui a reproché à Émilie Brontë la grande noirceur de ses personnages et des situations. Mais en même temps, c'est un livre qui a intrigué la critique, qui n'y a pas toujours été hostile, mais disons qu'elle a moins bien reçu cette œuvre, Les Hauts de Hurlevent, qu'elle n'a reçu l'œuvre de sa sœur, Jeanne Eyre, dont on va parler un petit peu plus tard, écrit par Charlotte Brontë. De nos jours, on sait que Les Hauts de Hurlevent est un livre reconnu comme l'un des plus grands classiques de la littérature du 19e siècle. Et en plus, on a dit, de plus en plus, on prétend que finalement l'écriture, les œuvres des sœurs Brontë, eh bien, sont les premières œuvres qu'on pourrait qualifier de féministes, ou du moins qui ont damé la route qui a permis à d'autres de suivre ce chemin-là. Alors, la mort des sœurs Brontë aurait-elle été causée par une eau infusée au cadavre? Eh bien, c'est possible. On a pensé que c'était la tuberculose, que c'était même le chagrin, parce qu'au fur et à mesure qu'il y en avait une qui mourait, bien sûr, l'autre s'enfermait de plus en plus dans une léthargie et dans un état de tristesse hallucinant. Mais ne voilà-t-il pas que tout d'un coup, on a l'impression que ça pourrait venir du cimetière voisin. Et non seulement du cimetière voisin, mais des eaux qui passaient par le cimetière et qu'on utilisait à chaque jour à l'époque, même si on la faisait bouillir, on ne la faisait pas tout le temps bouillir. Donc ces eaux usées-là, eh bien, passaient par le cimetière et donc, je ne vous ferai pas de dessin, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors lorsqu'elles arrivaient dans les modestes demeures et qu'on allait tirer la pompe à la main comme ça, eh bien les eaux étaient pleines de bactéries. À l'époque, on ne nettoyait pas les eaux, on n'avait pas les eaux usées. Alors, on peut penser que c'est simplement, finalement, ce qui les aurait tuées, les sœurs Brontë, comme les mêmes maladies dues à ces bactéries. On aurait tué, évidemment, des centaines et des milliers d'autres. Alors, c'est sûr que 150 ans plus tard, bon, c'est pas évident de dire si c'est vrai ou faux, mais c'est quand même cette explication qui mêle cimetière et eau usée. Ben, c'est quand même en résonance, nous disent certains spécialistes, avec les très sombres œuvres des écrivaines de la famille, parce que quand même, c'était pas gai-gai. Alors, Jeanne Eyre, ça a été écrit par Charlotte Brontë. Le roman est paru en France en 1855. Il y a d'abord eu une version raccourcie, tronquée. C'est sorti sous le titre de Jeanne Eyre ou Mémoire d'une gouvernante, qui a été adaptée d'ailleurs de nombreuses reprises au cinéma. Rappel en quelques mots, Jeanne ou Jane est orpheline, elle est d'abord recueillie par sa tante, Mrs. Reed, tenue par une promesse faite à son mari avant sa mort. Et Jeanne Eyre est élevée en inférieur, malheureusement, face à ses cousins qui n'hésitent pas à la maltraiter, et surtout à son cousin. Ensuite, elle va sortir de ce milieu, elle va devenir gouvernante, elle va tomber en amour avec le propriétaire des lieux pour qui elle travaille. Cet amour sera partagé, il va même finir par la demander en mariage. Et oh, c'est terrible, on découvre que le monsieur a déjà été marié, donc il ne peut pas épouser une autre femme. Et le jour J du mariage, elle dit non, 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 je me sauve. La suite, eh bien écoutez, relisez, réécoutez Jeanne Eyre ou allez louez-vous le livre, le film, si tant est qu'il est encore possible de se louer autrement que par le net, ou sinon écoutez-le. Tenez, voici la version encore par Mélodie Richard, sortie aux éditions Télème, extrait de Jeanne Eyre.
Ayant assis Bewick sur mes genoux, j'étais heureuse, du moins heureuse à ma manière. Je ne craignais qu'une interruption, et elle ne tarda pas à arriver. La porte de la salle à manger fut vivement ouverte. « Hé, madame la boudeuse !» cria la voix de John Reed. Puis il s'arrêta, car il lui sembla que la chambre était vide. « Par le diable, où est-elle ? » « Lizzie, Georgie !» continua-t-il en s'adressant à ses sœurs. « Dites à maman que la mauvaise bête est allée courir sous la pluie !» J'ai bien fait de tirer le rideau, pensai-je tout bas, et je souhaitais vivement qu'on ne découvrît pas ma retraite. John ne l'aurait jamais trouvé de lui-même, il n'avait pas le regard assez prompt. Mais Elisa, ayant passé la tête par la porte, s'écria « Elle est certainement dans l'embrasure de la fenêtre !» Je sortis immédiatement, car je tremblais à l'idée d'être retirée de ma cachette par John. John n'avait beaucoup d'affection ni pour sa mère, ni pour ses sœurs. Quant à moi, je lui étais antipathique. Il me punissait et me maltraitait, non pas deux ou trois fois par semaine, non pas une ou deux fois par jour, mais continuellement.
Voilà, quand un iPad décide de tomber, c'est ça que ça fait. Mais on est en direct, hein, ou presque en tout cas, on enregistre ça dans les conditions du direct. Alors il arrive que ces petits bruits inopportuns viennent déranger un petit peu l'enregistrement. Alors, on s'en va maintenant vers un autre sujet, la langue française. D'où ça vient ça, la langue française? Les anglicismes, d'où ça vient? Comment se fait-il qu'il y en ait autant? Il y en a un qui s'est posé la question, qui s'est demandé, qui a fait des recherches. Il s'appelle Laurent Deutsch et je vous en parle tout de suite après cette chanson de Léo Ferré, qui a été écrite quand même dans les années 50, 55, 60. Et lui aussi se posait la question.
C'est une baramède et ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter à faire shaving. J'suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud, rien qu'un petit flash. Au 5 o'clock, j'paie toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood, c'est ma baby. Au petit fortou, c'est ma lady, oh, un toutou. Je suis son jockey, son steeple chaise. C'est la driver à la française. Dans le sleeping car, after paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. C'est un plaisir. C'est ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coup de Kleenex. C'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma Camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'lui fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax et j'cause français. C'est un plaisir. C'est une barmède qu'est ma darling. Mais in the bed, c'est du forcing, c'est du pam-pam à chaque coup de gong. C'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal. Et dans le blackout, je smash facile sur son standing in extremis. Je fais du pressing au self-service et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir.
J'adore. Alors, après Paris et les routes de France, Laurent Deutsch aborde un sujet passionnant où son talent de conteur, évidemment, fait merveille. Alors, première surprise, mes amis, lorsqu'on parle de la langue française, c'est que l'ancêtre du français, ce n'est pas le gaulois, mais le roman, c'est-à-dire la langue romaine issue du latin de qui ? De Jules César. Le vainqueur de qui ? De la Gaule. On va entendre un extrait là-dessus, écrit et lu par Laurent Deutsch. Alors, au fil des invasions et de nos propres conquêtes, Ce latin-là nous explique Laurent Deutsch, et c'est ce que je lis en ce moment, c'est le résumé qu'on en fait sur le site de Audible, qui est une exclusivité, parce que c'est Audible qui présente en exclusivité les bouquins de Deutsch. Donc, on nous dit là qu'au fil des invasions et de nos propres conquêtes, ce latin s'est transformé et enrichi de multiples apports. Germanique, avec les francs. On a encore aujourd'hui des mots allemands dans notre vocabulaire, comme les Allemands ont des mots français dans leur vocabulaire. Nordique, avec les Vikings. Arabe, au moment des croisades. Quand vous parlez de votre mocha, vous parlez arabe, par exemple. Italien aussi. On a quelques mots italiens qui nous viennent de l'époque de la Renaissance. Avant de devenir, nous dit Laurent Deutsch, un Français triomphant dans toutes les cours d'Europe au XVIIIe siècle, grâce à qui? À nos philosophes. Mais entre-temps, il y a eu aussi les troubadours qui ont inventé l'amour et les femmes écrivains, réclamé leur émancipation. Il y a les grammairiens qui se sont occupés de la syntaxe et de la réforme de l'orthographe. Et ça, tout ça, ça a déjà rendu quelques linguistes complètement fous. Et enfin, il y a l'école obligatoire qui a achevé de permettre à tous les citoyens français de communiquer. Alors aujourd'hui, l'abus des termes anglais, les mots issus de la culture urbaine et les raccourcis de nos smartphones inquiètent les puristes. Et là, Laurent Deutsch nous dit « Ils ont tort. Le temps fera le tri et de ce bouillonnement créatif continuera d'émerger une langue vivante, ouverte à tous. La langue française est une langue d'accueil. » Extrait de Romanesque, la folle aventure de la langue française, de et par Laurent Deutsch.
En fait, les Gaulois formaient un ensemble très divisé. Par exemple, les Éduins de Côte d'Or haïssaient les Lingons du plateau de Langres, et ceux-là combattaient les Séquanes du Jura. Alors quand les Romains se sont retrouvés victorieux en Gaule, ils ont dû se dire quelque chose comme « j'y suis, j'y reste » et ont décidé de mettre un peu d'ordre dans le chaos local. La colonisation commençait. Ils sont donc restés sur place, les fiers légionnaires, avec leurs casques à plumet, leurs glaives, leurs boucliers colorés et leurs aigles dorés. Ils sont restés avec leur langue unificatrice et leur route bien empierrée. Sauf que les Gaulois, eux, avaient déjà une langue et déjà des routes. Bon, c'est vrai, leur langue était entièrement orale et leur route paraissait un peu tortueuse. En réalité, nos ancêtres les Gaulois avaient oublié d'inventer la ligne droite et l'écriture. Petites lacunes qui leur seront fatales pour entrer dans l'histoire par la grande porte, celle des témoins, des vainqueurs, des transmetteurs.
Ah, j'adore ça, surtout en période de confinement où, je ne sais pas si vous aviez des envies d'aller faire un tour en France, à Paris, mais le voyage que nous fait faire Laurent Deutsch dans la capitale et en France en général est vraiment sensationnel. Par exemple, il y a eu un petit peu plus tôt l'histoire de ce livre, d'ailleurs ça a été le premier qu'il a sorti, qui s'appelait « Métronome, livre 1, l'histoire de France au rythme du métro parisien ». Saviez-vous par exemple, nous dit-on sur le site d'Audible, que la Lutèce des origines ne se situait pas sur l'île de la Cité, vous savez, cette île au centre où l'on retrouve à Paris, au milieu de la Seine, Notre-Dame? Pas du tout, mais à Nanterre, c'est-à-dire dans la banlieue parisienne. Savez-vous que les derniers combattants gaulois massacrés par les Romains reposent où? Sous la Tour Eiffel. Savez-vous que les vestiges de la première cathédrale de Paris se trouvent sous le parking d'un immeuble moderne du 5e arrondissement? Non, je dirais pas stationnement, je dirais parking. Vous savez pourquoi je dirais parking? Parce que parking, ça vient de parquer les animaux. Donc c'est un mot français au départ qui a été repris par les Anglais. On parle des invasions? Eh bien, parlons-en de ces invasions. Alors, au fil de ces découvertes, eh bien, Laurent Deutsch vous emmènera vers ce qui fut le pont au change, ancêtre de la bourse, et puis il va nous amener chez un bistrotier qui entasse ses bouteilles dans une cellule de la Bastille et qui a été sauvée de la destruction, et tout au long des rues où se cachent des trésors qu'on ne soupçonne pas lorsqu'on va à Paris et qu'on a le nez en l'air, et c'est normal. C'est une promenade captivante où défilent des seigneurs alliés comme des princes rebelles et tout ce qui a forgé le pays. Vous allez voir s'ériger des murailles qui ont été érigés contre l'envahisseur. Vous allez voir s'agiter l'église, s'imposer des marchands, s'ébrouiller des artistes, l'université qui s'installe sur des ballots de paille, place Maubert. Bref, le peuple de Paris se soulève, c'est violent, c'est sanglant, c'est emblématique, mais ainsi va se reconstruire en même temps que toute l'histoire de France. Ça fait partie de la série Métronome et ça fait partie du livre 1 consacré au métro de Paris. En voici un extrait, toujours écrit et lu par Laurent Deutsch.
Vous descendez à la prochaine ? Me demande la petite dame, d'une voix timide, tout en me poussant légèrement pour être certaine de ne pas rater sa station. Le métro freine dans un grand crissement métallique. La prochaine ? Pourquoi pas ? Ce serait super de commencer mon voyage par le berceau de Paris, l'île de la Cité. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si cette île a vraiment une forme de berceau. L'essence même de la capitale, c'est ici. La tête, le cœur et la moelle de Paris, écrivait Guy de Bazoche au XIIe siècle. La station est construite comme un puits dans les entrailles de la ville. Nous sommes à plus de 20 mètres de profondeur, sous le niveau de la Seine. Tel Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre, j'ai la sensation de remonter le temps jusqu'aux origines. Et pas besoin de la cheminée d'un volcan pour pénétrer ses entrailles souterraines. Pas besoin du Nautilus pour passer sous les eaux. Moi, j'ai le métro. Toujours suivi par la petite dame, je gravis 4 à 4 l'interminable escalier qui me mène vers la lumière. La petite dame est distancée. À l'extérieur, je me heurte à un cyprès rachitique. Je tente de m'en dégager pour tomber nez à nez avec un olivier sans olive. Tiens, une trace du sud, écho fragile d'un paysage italien. Je touche au but.
Ouais, Laurent Deutsch pour faire une formidable visite de Paris sans même avoir à prendre l'avion. Il me reste un petit peu de temps, je suis contente parce que j'avais envie de vous parler d'une nouveauté chez Audiolib, nouveauté signée Aurélie Valogne, ça s'appelle Le tourbillon de la vie. C'est chez Audiolib. De quoi est-ce que j'ai... Oui, c'est lu par François Berland. François Berland, c'est un comédien français qui a peut-être une soixantaine d'années. Et c'est parfait qu'il ait cet âge-là puisque on est dans ce livre-là, dans Le tourbillon de la vie. On est avec un petit garçon et son grand-père. Et le temps d'un été, ils vont rattraper les années perdues où ils ne se sont pas vus. Bien sûr, plus de 60 ans les séparent, mais ensemble, ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Évidemment, le bonheur serait total si Arthur, le grand-père, ne portait pas un lourd secret. C'est un roman sur le temps qui passe, la transmission, les plaisirs simples qui font le sel de la vie. On nous dit sur Babelio qu'entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valogne nous touche en plein cœur. Il y a une lectrice aussi qui a écrit des très très bons mots qui dit « J'ai adoré le duo Arthur-Louis, ce dernier est rafraîchissant, les dialogues savoureux, ils m'ont fait sourire à plusieurs reprises car l'enfant a une sacrée répartie. » Il va notamment découvrir le théâtre et notamment la pièce Cyrano de Bergerac, très joli livre sur le temps qui y passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Alors on va en écouter un extrait de ce livre, Le tourbillon de la vie d'Aurélie Valogne, lu par François Berland.
Le ciel s'assombrit et au loin, une ondée efface déjà la ligne d'horizon. Les fins de journée sont orageuses ces temps-ci, les nuages susceptibles. Un rien semble les contrarier. La mer, elle, continue son travail de sape contre le banc de sable, contre la falaise aussi. Inlassablement, elle sera là demain, quelle que soit l'humeur du ciel ou celle des poissons. Arthur remet sa chemise et crie « Reviens, Louis, tu es tout bleu !»« Encore, papy, encore, s'il te plaît, je nage jusqu'à la bouée !»« Louis, une prochaine fois, il commence à faire froid !» À regret, Louis sort de la mer en grelottant et se jette avec force dans les bras de son grand-père, qui lui tend la serviette de plage. Après quelques secondes d'un câlin tout mouillé, Arthur le sèche énergiquement. Bâti comme un trombone à nœuds, avec ses épaules maigres et ses genoux cagneux, Le jeune trublion, aux cheveux tout ébouriffés, arbore une moue réprobatrice.
Mais pourquoi tu m'as demandé de sortir ?
Parce que je t'entendais claquer des dents depuis ma paillasse. Même pas vrai, bougonne Louis en s'affalant dans le sable.
Si, je te jure, tu vas attraper la mort un de ces jours. Je m'en fiche.
Quelle voix, hein. Quelle voix, la voix de Monsieur Berlan que j'ai appelé Berléan, et tout d'un coup j'ai un doute et puis j'arrive pas à le trouver. C'est ça, c'est bien François Berlan que je confonds toujours avec l'autre nom. Voilà, c'est ainsi que cette émission s'achève, l'émission des livres plein les oreilles que vous avez peut-être écouté en balado à Canalem, la radio de Vues et Voix, qui produit cette émission-là, à moins que vous nous ayez écouté sur CKVL, qui nous fait la gentillesse à chaque semaine de nous faire réécouter cette émission-là. Je voudrais remercier infiniment Francine Ruel d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation pour nous présenter le deuxième de la série sur le bonheur qu'elle a écrit. Maudit que le bonheur coûte cher, c'est sorti sur papier chez Libre Expression et c'est maintenant disponible au catalogue de Vues et Voix, lu par Francine Ruel. J'espère aussi vous avoir donné l'envie de lire, dans mon cas, ou de relire les œuvres des sœurs Brontë et de découvrir ce que le passionné, le fou furieux de l'écriture et le curieux de nature qu'est Laurent Deutsch nous fait grâce à ses livres sur Paris, sur la France, sur la langue française aussi, avec ces extraits que vous avez pu entendre. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine.